Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Bonjour, je me présente, je suis Aristide. J'ai été chargé par la direction de Radio Cité Genève de produire une émission sur les vins genevois et j'aimerais d'abord féliciter la radio de son initiative parce que les vins genevois, c'est une bonne cause. Et Aristide en a marre depuis 30 ans ou 40 ans d'entendre des gens qui disent que les vins genevois, c'est de la piquette. Et puis, vous savez, toutes les bonnes plaisanteries anciennes, ça raye les vitres, etc., qu'on a entendu 50 000 fois, c'est un désespoir. Et puis, il y a d'autres gens qui sont comme ça, peut-être un peu plus condescendants, qui disent, voilà, ben, les vins genevois, ils ont fait des progrès. Puis l'année suivante, ils ont fait des progrès. Puis ils ont encore fait des progrès, etc. Ça fait 40 ans aussi qu'on nous scie les côtes avec les progrès de la viticulture genevoise. Et donc, il s'agit de remettre les choses en place. Donc moi, je suis un défenseur des vins genevois. C'est, voilà, le principal titre d'Aristide, qui n'y connaît rien au vin, mais qui en parle beaucoup. Voilà. Alors, dans cette émission, il y aura chaque fois un invité. Et notre invité de ce jour, c'est Daniel Suliger, vigneron à Chouilly, qui est le maître du domaine de la Clé de Sol. Bonjour Daniel.
Bonjour Aristide.
Bonjour. Alors je ne veux pas faire semblant de vous voyer parce qu'on se tutoie d'assez longue date.
Voilà. Tout à fait.
C'est plus digeste. Voilà. Alors l'émission, quel sera son contenu? Quels seront ses contenus? Eh bien, il y aura différentes rubriques et donc chaque fois il y aura un vigneron qui sera la page centrale de l'émission. Et puis, on ne se privera pas d'anecdotes, de littérature aussi, puisque beaucoup d'écrivains et poètes ont évoqué le vin. Et puis, autrement, donc, des citations, parce qu'il y a des citations qui restent dans les esprits, voilà. Donc, ça sera une émission en 4 ou 5 ou 6 temps. Et puis, il y aura une rubrique que je vous présenterai tout à l'heure, la rubrique « La chaussette ». Alors, je dois encore dire le ton de cette émission. Je suis excédé par les faux connaisseurs du vin, ces gens qui en parlent de manière docte, professorale, savante, et puis qui font semblant d'être du métier qui ne le sont pas, parce que vous avez des gens, des bonimenteurs qui sont à un stand de vin quelque part dans un salon, mais 3 jours avant, ils vendaient des aspirateurs, par exemple. Et nous, on essaye de remettre l'église au milieu du village et puis d'avoir une vraie connaissance faite de simplicité. Voilà, alors nous optons pour un style décontracté, raffiné et puis en même temps un tout petit peu canaille. Alors voilà. Donc, il y a, pour séparer chaque page de notre émission, une petite ritournelle. Je ne vous fais pas l'insulte de dire d'où elle vient. Vous la reconnaîtrez. Et puis, on parlera aussi de la ritournelle. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le domaine de la Clé de Sol. Et ben, je vais vous dire d'abord où il est. C'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prenez depuis Genève la route de Mérin. Vous allez jusqu'à la route de Mérin, c'est tout droit, jusqu'à la route du Mandement. Ensuite, vous prenez la route du Mandement jusqu'à Satigny. C'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous montez la rampe de Chouilly. C'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, vous tournez à droite, vous faites 150 ou 200 mètres, vous plantez les freins et vous êtes sur le dos de la colline de Chouilly. Voilà, alors Daniel Suliger, est-ce que tu voudrais nous présenter peut-être en quelques mots l'histoire de ton domaine?
Alors, le domaine de la Clé de Sol, avant ne s'appelait pas comme ça, parce que mes aïeux étaient indépendants à l'époque et ils ont fondé la coopérative du Mandement en 1933. Il y avait une crise du vin énorme, des grandes bagarres avec les négociants et ils ont créé cette carte du Mandement. Par la suite, à la mort de mon père en 78, j'ai repris le domaine et on a voulu un peu bouger les choses. On a créé un groupe de jeunes, etc. On n'était plus d'accord sur la façon de récolter, de vinifier, etc., les bouteilles. On voulait des vins de qualité. Et malheureusement, on n'a pas été vraiment très, très entendus. Et les uns après les autres, nous avons quitté le bateau en toute honnêteté, sans animosité. Et nous avons créé nos domaines. Donc, une 20 ou 30 domaines se sont créés dans ces années, les années 85-90. Et c'est là que j'ai repris des installations. Donc, à la cave, on a refait la cave, refait les chais, etc. Et on s'est associé avec des collègues pour vinifier, presser, etc. Et le domaine Les Clés de Sol a été créé donc en 96, pour être précis. Pourquoi La Clé de Sol? Je suis musicien, je suis sonneur de trompe de chasse. C'est un peu atypique en Suisse, on est une petite centaine en Suisse romande, mais la plupart des sonneurs sont français. Alors j'ai associé mon domaine à la musique, et tous mes vins sont... ont un titre de musique.
Voilà, je dois ajouter, parce que notre interlocuteur est tout à fait modeste et discret, mais qu'il organise dans son domaine des concerts. Ça s'appelle les Jeudis de la Clé de Sol.
Les Jeudis musicaux.
Voilà, c'est en été et c'est des soirées de rêve. Vous êtes comme ça au sommet de la colline, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez déguster les vins. Ensuite, il y a un repas campagnard, des artistes classiques, mais aussi crossover, jazz, etc. Donc un peu tout genre, on n'est pas sectaire à la Clé de Sol. Et puis voilà, c'est une façon de démontrer que la vigne, le vin, la musique, la connaissance du vin font entre eux tout à fait bon ménage. Voilà. Alors pour aujourd'hui, nous avons décidé d'abord de choisir un thème qui a été déjà suggéré par ton entrée en matière. Le thème, c'est de la quantité à la qualité. Voilà, donc il y a eu des années de quantité, et puis maintenant, semble-t-il, on est dans les années de qualité. Je te pose une question d'abord. Est-ce que ceux qui ne font pas la qualité, de nos jours, sont condamnés?
Oui et non. Les gens qui font de la quantité, souvent, ne font pas de bouteilles. Parce que pour vendre des bouteilles là, actuellement, avec la concurrence des vins étrangers à bas prix, etc., il faut faire des très bons vins de qualité. Donc, la quantité, c'est pour faire des vins de bas de gamme, etc., qui sont vendus par le négoce. Voilà, ça peut encore exister, mais je ne sais pas combien de temps. Mais à mon avis, je pense que la qualité est nécessaire dans tous les vins maintenant qui sont vinifiés.
Question de survie.
Je pense.
Est-ce que tu penses que les consommateurs sont de plus en plus connaisseurs?
Je dirais pas connaisseurs, je dirais intéressés plutôt. On a des approches totalement différentes. On fait des dégustations, on a des clients intéressés, des autres pas intéressés. C'est assez hétérogène. On n'a pas de. Je peux pas donner un critère comme ça de la clientèle.
Pour moi, quand j'étais gamin, le vin, c'était un produit, je ne veux pas dire d'ivrogne, mais quand même d'un caractère assez commun. Et j'avais peut-être 5 ans et j'entendais chanter sous les tonnelles « Boire un petit coup, c'est agréable, boire un petit coup, c'est doux. » Puis ensuite « Mais il ne faut pas rouler dessous la table, etc. » Et puis il y avait une deuxième strophe, je crois « J'aime le jambon et la saucisse. » Voilà, donc c'était quelque chose tout à fait populaire. On s'attendrait à voir sous la tonnelle une accordéoniste. Et puis, des gens qui sont assez vite éméchés en plein soleil ou à l'ombre du feuillage. Donc, j'ai eu au début l'image d'un vin qui était quasiment crapuleux. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois dans des bars à vin, en ville, des jolies filles, comme ça, 20-30 ans, comme ça, distinguées, et qui boivent du rosé, qui a une merveilleuse couleur du cuivre frais qu'on met sur les bords des toits. Et je me dis, tiens, les mœurs ont changé. Est-ce qu'elles ont changé pour toi?
Alors, le rosé est devenu un vin à la mode. Je pense qu'actuellement, au bord du lac, hein, on voit, c'est de la mode, c'est des glaçons avec le rosé. Bon, pour moi, c'est un peu une hérésie, mais bon, j'aime bien le rosé, mais très frais, bien entendu, mais pas avec des glaçons. Alors maintenant, c'est un peu une mode qui est arrivée, et bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est fun, comme disent les jeunes, mais c'est pas vraiment la tradition. Mais Je préfère que ces jeunes boivent un petit verre de rosé avec des glaçons, qu'ils boivent d'autres boissons que le vin, qui est quand même une boisson qui a une culture, qui a une histoire et puis qui fait toujours plaisir.
Voilà, je sors du sujet encore, mais c'est mon habitude. Il existe de grands, grands vins rouges, de grands, grands vins blancs. Est-ce qu'il existe de grands rosés ?
Certainement, certainement. Il en existe. Il y a des gens qui font des rosés élaborés. Je pense que ça existe, oui, bien sûr. Il y en a même à la Clé de Sol.
Voilà, tu nous parles un petit peu de ton rosé de Gamay noir.
Alors voilà, le rosé de Gamay, c'est très, très connu. Alors, je suis un peu sorti des sentiers battus. Et le Gamay noir, qui est un cépage donc suisse, hein, qui est jeune, qui a 30 ans, qui fait des vins très tanniques, très soyeux. On a fait une saignée dans une cuve et puis on a réalisé un rosé de Gamay noir. Et c'est un rosé qu'on peut boire à l'apéro et aussi manger l'été parce qu'il a quand même du corps, il a de la puissance et puis il est très très souple et agréable. Il n'a aucune acidité, donc les gens l'apprécient bien.
Voilà, je veux pas faire outrageusement l'article. Je le trouve absolument délicieux, aromatique. Et il y a beaucoup de rosés, de méchants petits rosés bon marché, qui sont assez neutres, qui sont que vifs. Et puis qu'on arrive à sauver si on les met dans la glacière et puis quand on les sort à 3 degrés. Mais autrement, les grands rosés bien épanouis, riches, chaleureux. Des rosés qui disent quelque chose. Le tien en est un exemple. On revient à un autre thème, de la quantité à la qualité. Donc, il y a eu les années noires. Tu nous en parles un peu ?
Alors, une anecdote pour commencer. Quand mon père est décédé, j'ai repris l'affaire. J'étais déjà un peu... je faisais déjà les travaux de la terre et tout, mais mon père était encore vivant. Et je suis autodidacte. J'ai pas fait d'école. J'ai fait l'école des arts et métiers. J'ai fait un peu d'épanage agricole, viticole. J'ai fait mécanique. Et je me suis toujours intéressé à la vigne, mais comme le domaine était trop petit, on pouvait pas être deux. Alors l'anecdote est la suivante, c'est qu'un du village, j'ai commencé à travailler mes vignes, à bichonner, etc. Et il y en a un qui m'a dit, de toute façon, occupe-toi pas de la qualité, c'est la quantité qui paye. Première chose qu'on m'a dit les premiers jours de mon installation, ça m'avait un peu choqué, quoi. Mais à l'époque, c'était ça. Le meilleur vigneron, c'est celui qui produisait le plus. C'est terrible, mais c'était comme ça. Et voilà. Alors nous, les jeunes, quand on a pris un peu les rênes, mes collègues qui ont eu la chance de faire l'école de viticulture ou d'œnologie, ils ont quand même appris à déguster d'autres vins, etc. Ils ont vu beaucoup de différences avec les nôtres et puis ils ont dit, mais il faut faire quelque chose.
Oui, d'accord, tu dis que c'est ce qui se vendait le plus, donc qui remplissait la poche du vigneron. Mais est-ce que la marchandise se vendait ?
Alors, il faut dire qu'il y a 40 ou 50 ans, la production de bouteilles à Genève était confidentielle. Il y avait une dizaine de vignerons indépendants, la coopérative, mais le gros des raisins ou du vin partait en vrac ou en raisin dans le canton de Vaud ou en Valais pour couper les chers vins valaisans et les chers vins vaudois. Donc, on se préoccupait pas trop de la qualité. On disait, bon, monsieur le Valaisan, il veut 58 000 litres, on lui livre 58 000 litres. Et puis voilà, il n'y avait pas d'histoire. Le vin était franc, net et marchand, et on se posait pas plus de questions.
Voilà, à t'entendre, ça me rappelle un sujet d'exaspération récurrent chez moi. Donc, de temps en temps, je l'avoue, à ma grande honte, je vais dans un bistrot. Et puis, j'entends des gens qui commandent et puis qui disent « je prends un ballon de Genevois, de Chasselas ». Et puis la serveuse qui répond, je suis sûr que tu l'as entendu 50 fois aussi, « ah, on n'en a pas, mais on a du vaudois ». Comme si le vaudois était automatiquement meilleur que le Genevois. Et alors, il y a de tout partout, hein, on en est d'accord. Et puis, les gens buvaient peut-être alors, à t'entendre, en croyant consommer vaudois ou romand, une boisson dans laquelle la moitié était genevoise.
Peut-être pas la moitié, mais il faisait des coupages de 10-15%, je pense.
Voilà, donc soit dit en tout respect pour les vins vaudois valaisans, mais à Genève, on peut les toiser tout à fait, c'est ton avis.
Oui.
Oui, oui, indiscutablement. Voilà, alors la période de la quantité. Je confirme ce que tu as dit, j'avais entendu parler d'un vigneron, paix à son âme, qui récoltait 4 kilos de raisins au mètre. Est-ce que c'est possible?
Bon, là, c'est vraiment l'extrême. Parce que dans la vigne, je veux vous dire, elle fatigue beaucoup. Moi, quand j'ai commencé, moi, j'avais je voyais des voisins qui avaient des problèmes de jaunissure, de dépérissement des souches, etc. Et puis, avec l'œnologue cantonal, Monsieur Claude Desbaillets, qui était un personnage très compétent, il a pris un peu le problème de ses vignes et on s'est rendu compte qu'on demandait trop à la vigne. À la vigne, demandait trop, on mettait de l'engrais fortement, et la vigne, elle souffrait, elle stressait. C'est pour ça qu'on n'avait pas des vins de qualité et trop de quantité.
Est-ce que tu estimes que travailler dans une cave coopérative, ça déresponsabilise?
Pour certains, non. Je pense qu'il y a des bons vignerons de cave coopérative, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui n'ont jamais vendu une bouteille, qui ne dégustent pas, qui ne sont pas intéressés par le commercial. Oui.
Autrefois, on avait l'image du vigneron qui faisait des pommes, des pêches, et puis peut-être aussi un peu de colza et du raisin. Ça dure, ça?
La polyculture, oui, il y en a encore à Genève. Oui, il y a pas mal de gens à la coopérative qui ont, par exemple, des domaines agricoles assez grands, 2-3 petites cultures, et puis ils ont un bout de vigne, etc. Voilà, du grand-père, etc. Et voilà, pour ça qu'ils sont à la coopérative. Ils ne veulent pas s'équiper et tout pour 3, 4, 7 ou 10 000 mètres.
Voilà, alors on ne va pas s'auto-flageller sur le laxisme d'autrefois, mais alors maintenant on est en marche vers la qualité. Est-ce qu'on peut imaginer que le grand virage ait été pris en 1980?
Non, en 88. Donc c'est là que 2-3 jeunes ont foncé pour créer les AOC à Genève. Les premières AOC de Suisse, hein, faut le dire. On nous traitait un peu de français. Ouais, vous voulez prendre l'exemple français, etc. Bref, de fil en aiguille, on est arrivé à créer une AOC, pas Genève malheureusement. Elle était plus récente, mais on a créé des appellations de village en sorte. Et dans ces appellations, on était obligé de faire une limitation de récolte, ce qui a un peu élevé le niveau de qualitatif.
Donc l'État a joué un grand rôle dans la qualité.
Ben, en fin de compte, l'État a cautionné notre démarche et officiellement, c'est les cantons qui gèrent les AOC cantonales. Berne s'occupe des vins suisses, mais toutes les AOC sont gérées par les cantons.
Voilà. Je reviens sur 82. Il m'a semblé, enfin dans mon souvenir, c'est l'année de la récolte tellement énorme qu'on ne savait plus où mettre le mou.
Tout à
et
fait.
Je me rappelle que certains avaient été réduits à le mettre dans les piscines ou dans Dieu sait quel récipient. Et à ce moment, me semble-t-il, la viticulture genevoise était dans l'impasse. Donc est-ce que c'est pas à ce moment qu'il a fallu réorienter la production?
Alors, avant 82, il y avait eu les années de fin 70, 78, 79, qui ont été des années où la fleur a mal passé. Il y avait des très, très petites récoltes. Alors, vu le contexte de l'époque, tout le monde était content de cette grande production. Mais on a tous été surpris des volumes. C'était impressionnant. C'était multiplié par 3. Donc, la cave a été dépassée, tout le monde était un peu dépassé, et puis il y a des gens qui ont mieux géré que d'autres.
Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de limiter cette crise au moment de la taille, en taillant plus sévèrement?
C'était pas la pratique. Et ça a un peu renfloué les caisses des vignerons, tout le monde était content. On ne s'est pas préoccupé plus loin. Mais 83 a été une année aussi très, très, très productive. Donc, on aurait pu un peu écouler les stocks 82, mais malheureusement, 83, rebolote, une grosse année. C'est ça qui a carrément déréglé le marché, qui a tout déréglé, en fin de compte.
Je pensais naïvement qu'au moment des effeuilles, on coupait les grappes surnuméraires.
Ah, ça se fait actuellement, mais ça se faisait pas du tout à l'époque. Les premiers qui ont coupé des grappes, ils se sont fait, les gens, les vignerons rigolaient. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand je coupais une grappe ou je laissais tomber une grappe au vendange, je me prenais un coup de pied au derrière. Et maintenant, vous coupez des grappes et c'est une hérésie. Même les ouvriers voulaient pas le faire.
Voilà. Maintenant, on est dans une époque de qualité. Qu'est-ce qui fait la qualité? Comment s'y prend le vigneron pour avoir un vin de qualité?
Alors, il faut expliquer. Au préalable, c'est un vase communicant. Plus vous faites de quantité, donc le vase monte et la qualité baisse. Et si vous faites très, très peu de quantité, c'est la qualité qui monte. C'est un vase communicant.
Première variable, le rendement. Voilà. Premier point, un, le rendement.
Alors, le rendement, donc, il est limité en AOC à 1 kg pour les spécialités à Genève, ce qui est raisonnable, parce que c'est un plafond, il ne faut pas oublier, il y a des années, on ne le fait pas.
Hein. D'accord.
Donc, c'est un plafond légal. Et pour le chasselas, gamay, c'est 1,25 kg, je crois, au mètre carré. Et chaque année, l'interprofession règle le jeu, mais on ne bouge pas les quotas pour l'instant. Mais nous, par exemple, pour certains vins du domaine, je descends à 800 grammes, on coupe des grappes.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. C'est d'abord la charge dans la vigne. Ça, il faut régler ça, ça, c'est la première chose. Après, il y a le feuillage. Il faut avoir un feuillage qui est sain, qui est entretenu. Donc, pourquoi on traite ? Pour avoir un feuillage qui fait la photosynthèse et qui nourrit les baies de raisin et met du sucre et les arômes et tout ce que vous voulez pour créer un bon vin. Nous, on ne traite pas par plaisir, on traite pour protéger nos raisins et qu'ils soient aux vendanges d'une qualité réprochable, pas pourris, pas d'odium, etc., de maladies, pour avoir des vins vraiment de qualité.
Autre opération, je ne sais pas, je pense par exemple au choix des cépages.
Alors ça également, on a diversifié beaucoup à Genève. Il y a 40 ans, on avait le fameux gamay, épinot noir, c'était les deux cépages rouges qui existaient. Et il y avait le chasselas et le riesling sylvaner.
Voilà.
Un peu de chardonnay pour diversifier. Mais grosse production, c'était ces quatre cépages. Et petit à petit, les vignerons ont introduit le Sauvignon, le Pinot Blanc, le Chardonnay, le Merlot. Après, il y est venu le Gamaret, donc un nouveau cépage suisse qui a été créé par les stations fédérales, qui est magnifique, qui sont des cépages tanniques, cool color, qui ont du fruit. Et à Genève, il y a 37 cépages autorisés à l'heure actuelle. Donc, on a une diversité de cépages, mais c'est des cépages qui demandent peu de quantité.
D'accord, oui. On parlera une fois, parce que ça mérite une ou plusieurs émissions, des cépages, puisque Genève se distingue peut-être par une extraordinaire diversité, et on ne sait pas si c'est un point fort ou un point faible, mais en tout cas, c'est spectaculaire. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces indications. J'aimerais te poser une dernière question. C'est sur le style de tes vins. Donc, le vigneron, avant de réaliser un vin, le conçoit, il recherche un certain idéal. Et toi, comment définirais-tu ton style ?
Mon style, c'est... Moi, en œnologie, on parle d'un... Ou en viticulture, on parle d'un vin droit, un vin qui est droit. Ça veut dire que il est équilibré. Il a du fruit, il a des tanins, il a une rondeur, ouais, c'est difficile à...
Une présence ?
Voilà, exactement. C'est ça qui fait un grand vin. C'est ça qui fait un vin, c'est qu'il est équilibré entre l'acidité, le tannin et tout. Tout cet ensemble, si c'est équilibré, on appelle ça un vin droit. Et ça, c'est les meilleurs vins qui se fassent.
Voilà, si je te dis que tes vins sont généreux, est-ce que tu es d'accord ? De par leur style ?
Généreux, c'est pas un terme vraiment qu'on utilise. Moi, je dis toujours, c'est des vins équilibrés. Ça, c'est important.
D'accord, très très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir offert cette initiation. J'espère qu'elle aura persuadé les auditeurs que Genève maintenant produit des vins de très haute qualité. Encore un mot ?
Oui, j'aimerais quand même remercier donc Radio Cité d'avoir eu l'idée de faire cette émission. Moi, je suis très très content et surtout que tu l'animes, parce que on est des vieux amis maintenant. Et je souhaite bonne chance à cette émission et longue vie. Et j'espère que les gens vont écouter et puis après venir nous trouver, déguster des vins genevois et finalement les acheter. Merci oui. À vous.
C'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper.
Radio Cité Genève.
Voilà, alors maintenant, une des rubriques de notre émission nectar.ge.ch, c'est la chaussette. Je suis partisan acharné de la dégustation à l'aveugle et nous allons soumettre notre invité à dégustation. Alors, je précise bien, c'est pas pour le piéger. On peut piéger n'importe qui avec des vins atypiques et on pourrait raconter beaucoup d'anecdotes parce qu'il y a des fois des vignerons qui ne reconnaissent pas leur propre vin, qui le critiquent vertement et qui tombe sur les fesses. Donc voilà, il ne s'agit pas de piéger, mais il s'agit de commenter et puis d'analyser ce moment précieux, ritualisé, qu'est la dégustation. Alors cette rubrique s'appelle la chaussette, parce que si vous n'avez pas de cache particulier, vous pouvez masquer votre vin dans une chaussette. Et sur une table distinguée, sur une table de fête, c'est du plus bel effet. Donc voilà pourquoi notre rubrique s'appelle la chaussette. Donc voilà, j'ai une bouteille de vin qui est cachée. Je verse. Et je tends le verre à notre invité, qui ne va pas faire gloup d'un seul coup, mais qui va observer toutes les phases dans les règles de l'art et puis commenter à mesure.
Alors d'abord, on sent le verre déjà vide, voir s'il n'a pas une odeur. Parce que ça, c'est très important. Il y a des fois des verres qui sont mal lavés, etc. Ça peut influencer la dégustation. Donc, première chose, sentir le verre vide. Moi, je le fais au restaurant systématiquement. Et j'encourage les gens à le faire. Après, c'est la vue du vin. On est sur un blanc. Le vin doit être limpide. Il ne doit pas avoir des troubles, etc., qui seraient peut-être des erreurs œnologiques. Donc, on regarde la limpidité du blanc, voir s'il est clair, brillant, etc., ce qui est le cas pour ce vin. Deuxième phase de dégustation, c'est le nez. Alors, on prend le verre au nez, on respire, on se fait déjà une première impression, et après, on remue le verre pour un peu sortir les arômes du vin. Et on remet le nez dessus.
Je fais juste une remarque. Je vois que tu es dans l'orthodoxie parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a deux nez. Il y a un premier nez. On met le nez au-dessus du verre.
C'est ce que je viens de faire.
Voilà. Donc, on est dans l'orthodoxie.
Tout à fait.
Et ensuite, on fait circuler un peu le vin.
On remue un peu le vin pour sortir les arômes, toutes les subtilités du vin. Et souvent, on confirme le premier nez. On a toujours deux nez, c'est pour toujours confirmer. Le premier nez, on a déjà une idée. Le deuxième nez, on confirme. Alors après ça, donc sur des fiches dégustation, on note déjà le nez déjà. Alors ça, c'est un nez assez floral, assez discret, mais persistant. Donc c'est un vin agréable pour l'instant. Troisième phase, c'est le prendre en bouche. Alors le bruit que vous entendez, c'est le rétronasal. On essaie de faire passer de l'air, d'entrer de l'air dans le vin pour un peu l'oxygéner, pour aussi également dégager tous les composants organoleptiques du vin. Et après, quand on a avalé le vin, après avoir bien travaillé dans la bouche, on compte un peu la persistance dans le palais du vin, surtout pour les vins rouges. Les vins blancs, c'est pas le cas, mais pour les vins rouges. On appelle ça les caudalies. Ça se calcule en secondes. Et plus les caudalies sont longues, plus le vin est structuré, tannique et puissant. Ce qui n'est pas le cas du vin, là. Les blancs, on n'a pas les tanins dans les blancs. On a des arômes surtout de fleurs blanches, tout ça. Dans les sauvignons ou des autres vins comme ça, on a des arômes de fruits, de fruits de la passion, toutes ces choses-là. Mais c'est assez vaste. Mais pour moi, ce vin, c'est... je me lance, hein, c'est d'être un Chasselas de Genève.
Oui, alors forcément, c'est un vin genevois, c'est un Chasselas gagné.
Je suppose que c'est un bon Chasselas de Genève qui est agréable, qui a un joli nez de floral et qui est en bouche et qui a une acidité, mais maîtrisée. L'acidité, il ne faut pas oublier que c'est un facteur de conservation du vin. Si vous avez des vins trop tendres, on appelle sans acidité, c'est des vins qui ne vont pas se garder. Alors, il faut de l'acidité. À l'époque, on en avait trop parce qu'on produisait trop, donc il y en avait trop dans les raisins, mais maintenant, on a une bonne acidité dans les vins.
S'il fallait, mais je ne suis pas trop partisan des notations, donner des points sur 10. Hein, on ne va pas donner des points sur 100 comme un certain...
Alors, moi, comme j'ai créé avec le Nolo Cantonal à l'époque, il y a bientôt 15 ans, la sélection des vins de Genève, donc le concours, le premier concours cantonal au niveau suisse, on a pris tout de suite la feuille internationale sur 100 points. C'est beaucoup plus agréable de travailler sur 100 points. On est plus précis que sur 10 ou 20 points.
Voilà.
Alors, sur 100 points, pour votre information, une médaille d'or, c'est 85 points. Pour ce vin, je serais entre 82 et 83 points. Voilà, pour être précis.
Voilà. Moi, c'est quant à moi, c'est le vin blanc genevois. comme je l'aime, c'est-à-dire le chasselas d'autrefois, tandis que maintenant on a tendance à en faire des chasselas un peu tropicaux, avec de l'ananas et je sais pas quoi, qui perdent un petit peu leur identité. Donc ça, c'est le petit blanc sec qui revigore et qui est immensément agréable.
Pour l'apéritif.
Et qu'on boit après une journée de dur labeur.
Tout à fait.
Est-ce qu'on lève le mystère?
Bien sûr.
Bon, c'est un vin blanc de la cave de Genève.
De? C'est du chasselas?
Oui, c'est un chasselas.
Ben voilà, je me suis rassuré.
Merci, bravo. Nous continuerons avec cette rubrique.
Merci.
Radio Cité Genève.
Voilà, alors nous avons plaisir à raconter des anecdotes dans l'émission nectar.ge.ch et notre invité est toujours Daniel Suligère, patron du domaine de la Clé de Sol. Voilà, alors ces histoires légendaires, on en raffole.
Tout à fait.
Alors une petite anecdote, il y en a des monstrueuses. Et donc, Daniel, tu nous racontes l'histoire d'un commis comme ça, tout à fait innocent, qui croyait bien faire même.
Tout à fait. Alors c'était dans une cave d'un village genevois. Et le vigneron arrête la production. Il avait un aide-caviste qui était là depuis des années. Et il dit à son collègue, eh ben, écoute, ça serait bien que tu l'engages pour les vendanges. Alors, il lui dit, ben, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il est bien? Oui, oui, oui. Alors, il dit, bon, ben, tu vas rester au pressoir. C'est quand même un endroit important. Et puis, ils remplissent le pressoir, tout. Et puis, à la fin, le patron dit, bon, on va fermer le pressoir. Tout d'un coup, le type arrive avec deux seaux d'eau et les renverse dans le pressoir, là, sur le raisin. Et le patron lui dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh, mais chez le père Mayor, on faisait toujours ça. Voilà un peu l'image de d'Ivan Genevois.
Rideau, voilà. On a bien fait de parler sur le thème de la quantité à la qualité.
Radio Cité Genève.
Voilà, alors Aristide est aussi un littéraire et c'est pas étonnant parce que le vin est un art, la littérature est un art et la peinture est un art et il faut jeter des ponts entre tout ça. Donc je vais vous parler d'Alfred de Musset qui n'était pas complètement déconnecté du vin. Mais en réalité, mon idée c'est de commenter une expression qui est souvent ou presque toujours interprétée à tort. On dit qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors là, on pense à des gens qui boivent pour boire et qui achètent par exemple le vin en cubi, qui vont faire glou-glou jusqu'à ce qu'il roule sous la table. Et c'est pas ça. Donc, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. L'ivresse, en réalité, c'est une phrase qui appartient à un poème, c'est un alexandrin, d'un personnage tout à fait raffiné qu'est Alfred de Musset. Alors donc, c'est pas de la soulographie, c'est pas des ivrogneries, et on va lire le poème d'Alfred de Musset, et après, on va en extraire la vérité. Doutez, si vous voulez, de l'être qui vous aime, d'une femme ou d'un chien, mais non de l'amour même. L'amour est tout, l'amour est la vie au soleil. Aimer est le grand point, qu'importe la maîtresse. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Alfred ? Il a voulu dire que le but restant de toute façon l'extase, on peut être avec une femme, prendre ses ébats avec elle et atteindre au plus grand plaisir, même si elle n'est pas Miss Monde ou Miss Univers, même si ses mensurations ne sont pas idéales, même si elle a quelques petits défauts physiques, mais peut-être qu'elle a du charme, qu'elle a peut-être quelque chose de particulier qui vous envoûte. Donc, la différence entre l'enveloppe et le contenu, elle est exprimée ici. Le flacon, c'est une bouteille avec une étiquette plus ou moins pompeuse. Et puis le contenu, eh ben c'est le vin lui-même. Et c'est ça qui donne l'extase. La femme, indépendamment de son physique, elle a une personnalité profonde qui peut charmer plus ou charmer moins. Voilà, donc on s'intéresse au produit pour lui-même et non pour l'apparence, et non aux apparences. Et c'est ce que nous cherchons à faire dans cette émission. On s'intéresse pas à l'étiquette du vin, à son prestige, à son coût, à sa provenance, mais on le goûte pour lui-même, avec l'espoir qu'il nous apporte du plaisir. Et il faut que je vous lise la suite du poème d'Alfred de Musset, qui est totalement méconnu. « J'aime tous les vins francs, parce qu'ils font aimer. Mais je hais les cafards et la race hypocrite des tartuffes de mœurs, comédiens insolents qui mettent leur vertu en mettant leurs gants blancs. Donc, il y a des gens comme ça qui sont des prêcheurs, qui font la leçon aux autres. Et le poème de Musset, c'est quand même une sorte d'ode à la liberté. Les moralisateurs, c'est des gens qui nous polluent et vivons la vie pour ce qu'elle apporte de beau, de magnifique, et par exemple le vin. Alors, avec le vin, est-ce qu'on fait des infidélités? Parce que Musset, on ne peut pas jurer de sa fidélité après ce qu'il a écrit. Alors, ben oui, en la matière, avec les vins, je fais des infidélités. C'est-à-dire, je peux être entiché d'un propriétaire et puis en découvrir un autre, adorer un vin et puis avoir un autre coup de foudre. Donc, c'est ceci la vie et Alfred de Musset a bien raison. Voilà, eh bien Alfred de Musset nous inspirera encore. Et Aristide vous salue, vous souhaite une bonne semaine et remercie Olivier Steinmetz qui est à la technique.
Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.